avions donc laissé notre Seigneur au mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, donc au sud de la ville, traversé le Cédron, monté jusqu'au jardin de Gethsémani, où donc il a vécu là son agonie. Et c'est là, bien que ses ennemis, ses adversaires vont venir le chercher pour le condamner et le mettre à mort. Alors c'est... Bon, vous vous souvenez peut-être un petit peu, ça, ceux qui étaient là les années précédentes, l'année dernière du mois, où nous avions évoqué un petit peu cette question, ce que nous dit le nouveau catéchisme. Vous savez que notre Seigneur, donc, d'après le nouveau catéchisme, avait demandé aux autorités religieuses de Jérusalem un acte trop difficile, pratiquement. Oui. Une telle exigence de conversion face à un accomplissement si surprenant des promesses permet de comprendre la tragique méprise du Sanhédrin, estimant que Jésus méritait la mort comme blasphémateur. Bon, donc, c'est ainsi qu'on nous présente la chose, une méprise. Ils se sont trompés. Bon. Et puis ensuite, donc, sur le procès de Jésus, vous vous souvenez un petit peu ce qu'on nous enseigne là. En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifesté dans les récits évangéliques, c'est vrai que ce n'est pas très très simple, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès, Judas, le Sanhédrin, Pilate, que Dieu seul connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem, etc., etc. Jésus lui-même, en pardonnant sur la croix, et Pierre, à sa suite, ont fait droit à l'ignorance des Juifs de Jérusalem et même de leur chef. Toujours un peu méprise, ignorance, bon, tout ça pour tenter de diminuer leur culpabilité. Bon, puis ensuite, ça, c'est autre chose, mais enfin, puisque... En gros, les chrétiens sont plus responsables encore que les juifs dans ce crime. Alors, il ne s'agit pas, attention, de s'acharner sur ces pauvres juifs, ça c'est clair. Bon, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. On peut très bien leur pardonner, ça c'est vrai, bien sûr, notre Seigneur leur a pardonné, sans doute. Mais le pardon ne veut pas dire l'ignorance du péché. C'est autre chose, au contraire. Mais pour pardonner une faute, il faut qu'il y ait faute. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pardon. Excusez ça, c'est. Et donc, si notre Seigneur a pardonné aux Juifs, s'il a prié pour eux, bien, c'est sans doute parce qu'ils avaient péché. Ça, c'est clair, ça. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. C'est le père de Chivré disait, c'est très juste, ça. Et retenez peut-être un petit peu l'idée que sur la croix, Jésus pardonne, mais il n'innocente pas. Attention, il n'est pas question de dire que les pécheurs sont innocents. On pardonne aux pécheurs, mais ils sont pécheurs. Oui, ce n'est pas innocenté, ce n'est pas dire ils ne sont pas pécheurs, ça ne va pas, ça, c'est pas juste, c'est pas normal. Oui. Alors, est-ce que les Juifs sont pécheurs? Est-ce que du moins les Juifs de l'époque, bon, ceux d'aujourd'hui c'est autre chose, mais ceux de l'époque, bon, dans quelle mesure ils sont pécheurs? Eh bien, ma foi, vous le verrez vous-même, je dirais, c'est même pas la peine de faire beaucoup de dessins pour cela. Mais il est certain que, malgré tout, vous verrez, on ne peut que... Je dirais à la limite admirer l'intelligence, disons, la ruse, la façon dont les Juifs vont s'y prendre pour perdre Jésus. C'est extraordinaire. C'est bien fait, c'est bien monté leur affaire, c'est très bien goupillé. Tout est bien calculé, il faut aller vite de nuit pendant que tout le monde goupille à Jérusalem. Voyez. Comme ça, quand la ville se réveille, ça y est, tout est fait, il est condamné. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les pauvres juifs de Jérusalem sont complètement ligotés, muselés, ils ne peuvent plus rien dire. Voyez. La grande autorité religieuse a condamné notre Seigneur. Comment voulez-vous que le petit juif là, de la rue aille s'insurger contre ce décret qui a été porté pendant qu'il dormait? Toutes ces foules qui ont acclamé notre Seigneur, eh bien, elles sont complètement ligotées par cette manœuvre. Tout s'est fait de nuit, très rapidement, en silence, discrètement. C'est fini. Après, qu'est-ce qu'il restera à faire? Eh bien, à faire ratifier cette condamnation par l'autorité politique, donc par Pilate. Oui. Mais c'est très, 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 très bien fait. Ça. Même, vous voyez, un petit peu, dans la façon dont ils vont perdre Jésus, ils sont arrivés à séduire un apôtre. Ça, c'est fort aussi. Bon, sans doute un apôtre un peu plus faible, peut-être, que les autres, peut-être un petit peu quelques défauts, quelques faiblesses qu'ils connaissaient, sans doute, et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à séduire un peu ce pauvre Judas pour bien l'utiliser. Ils vont l'utiliser, voyez, pour perdre notre Seigneur. Et quand Judas aura servi, quand il aura rempli son rôle, ben, on va le laisser tomber. Terminé. Débrouille-toi, c'est ton affaire, c'est pas la nôtre. Voyez, c'est affreux d'un côté, mais c'est admirable d'un autre côté. Bon, voyez, c'est admirable au plan de la technique, si vous voulez, mais c'est affreux au plan de la malice. Hein, Et même, vous voyez, nous le verrons, dans les accusations qu'ils vont porter contre lui. Bon, eux, ils vont le juger, le Sanhédrin de nuit, ils vont le juger pour un motif religieux. Il blasphème, il se fait le fils de Dieu, etc. Ouais, tout ça. Bon, il veut détruire le temple et je ne sais quoi, toutes ces choses-là. Ouais. Mais quand ils vont le présenter à Pilate, ils ne diront pas un mot du motif religieux. Non, ils vont présenter un motif politique. Voilà, c'est un séditieux, il trouble l'ordre public. Oui, alors suivant la circonstance, mais le chef d'accusation sera différent. Eux, ils le jugent pour un motif religieux, mais ils n'en disent pas un mot quand il s'agit de le présenter à Pilate, parce que Pilate, lui, à la limite, problème religieux, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas son problème. Donc jamais Pilate n'aurait condamné notre Seigneur pour un blasphème. Pensez donc, ça ne l'intéresse absolument pas, ce n'est pas son affaire. Mais séditieux, il trouble l'ordre public. Ah, attention, là, l'ordre, hein, ça c'est... Et c'est très, très habile, et même ils exercent, vous verrez, vous le savez, enfin, je pense que vous connaissez un peu ce texte déjà, ce chantage même qu'ils exercent sur Pilate. Et c'est très, très habile, hein. C'est suivant les réactions de Pilate, ils utilisent un argument ou un autre. Ouais. Bon, nous verrons cela, mais vraiment c'est fort, hein. C'est fort. Bon, enfin. Alors quand on lit tragique méprise... j'ai du mal à croire, vous voyez, c'est trop, il y a trop de mauvaise foi dans tout ça, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est clair ça, c'est trop clair, c'est évident ça, hein. Bon, enfin, nous verrons. Donc, nous avons laissé notre Seigneur après ces 3 heures d'agonie, donc il est à peu près vers les minuit, donc la fin du jeudi saint, et nous entrons donc pratiquement dans le vendredi saint, ce grand vendredi. Bon, notre Seigneur vient de dire à ses apôtres, eh bien, bon, écoutez, puisque vraiment... Vous n'y arrivez pas à dormir, quoi. Bon, reposez-vous. Allez. Puis on va attendre un petit peu la suite. Quoi. Et c'est à ce moment-là qu'approche la troupe de ceux qui viennent le chercher, l'arrêter. Et notre Seigneur, eh bien, secoue un petit peu ses apôtres à ce moment-là. Hein. Levez-vous. Voici que celui qui doit me trahir est proche. Ouais, maintenant, c'est fini. L'heure n'est plus à la tristesse, à l'accablement, mais au contraire, hein, il va falloir se battre. Se battre non pas physiquement, mais se battre, je dirais, moralement. Hein. Ça va être l'heure de la grande épreuve, hein, la grandeur de notre Seigneur. Et donc là, il s'agit de se mettre debout, hein, pour affronter la situation. Les pères de l'Église, vous voyez, quand ils commentent un peu cet épisode de l'arrestation, des très belles réflexions. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, que notre Seigneur et les apôtres, voyez, pendant tout le temps qu'ils ont passé ici, et même actuellement encore, ils sont comme cela, ils n'ont pas de torche, ils n'ont pas de lampe, enfin de, pas de lampe, enfin de lanterne, disons, ouais, des choses comme ça. Ouais. Ils sont dans la nuit, dans l'obscurité, et apparemment, ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour s'éclairer. Et les pères de l'Église disent, mais c'est normal, puisque la lumière du monde était avec eux. Notre Seigneur était là. C'est lui la lumière du monde. Quand on est avec notre Seigneur, ouais, on n'a pas besoin d'autre lumière. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu spirituel, mais c'est pas faux. Hein. Alors que la foule qui vient, elle, au contraire, elle est armée de bâtons, etc., d'épées, de bâtons, et même, excusez-moi, je ne trouve plus, mais des lanternes, en tout cas, des flambeaux, des lanternes, etc. Pourquoi ? Ben parce qu'eux, ils sont aveugles. Ils sont aveugles, ils n'y voient rien. Ils sont aveuglés par la passion, aveuglés par la haine, aveuglés par leur péché, par leur malice, et donc ils ont besoin de s'éclairer. Ils n'ont pas la lumière du monde. Ouais. Ils sont dans la ténèbre, et donc ils ont besoin de ces lumières artificielles, eh bien, pour essayer de trouver celui qu'ils cherchent. Ouais. Et également, ouais, dans la façon dont les choses se passent, ouais, Judas les précède. Ouais, Judas marche devant eux. Il précède la troupe qui le suit, là. Pourquoi ? Eh bien, parce que Judas veut faire croire aux apôtres qui sont là, qu'il vient, et que les autres l'ont suivi, mais sans qu'ils le veuillent. Il essaie un petit peu de se tirer d'affaire, quand même, il dit, attention, bah, hein. Donc son idée, c'était d'arriver, bon, de saluer le maître, et puis de rejoindre les apôtres, et puis d'attendre la suite un petit peu. Ouais. Donc l'air d'avoir été suivi sans qu'il l'ait cherché. Bon, alors qu'il le cherchait, hein, très très clairement. Et donc il s'avance vers notre Seigneur, il le salue à la façon habituelle, donc il donne ce baiser, le baiser de Judas, bon, qui est un geste habituel, hein, il ne faut pas donner à ce geste, vous voyez, une signification spéciale, hein, c'est une façon assez fréquente, assez courante, hein, de se saluer. Bon, je ne parle pas de ce qu'on fait aujourd'hui dans nos régions, mais même dans ces régions-là, bon, c'était une façon tout à fait normale de se saluer. Mais notre Seigneur, eh bien, c'est ça qui va faire échouer un petit peu le plan de Judas, eh bien, c'est que notre Seigneur, eh bien, le dénonce. Donc, vous voyez, notre Seigneur est là avec ses apôtres. Judas s'avance vers lui. Bonjour, maître. Maître, je vous salue. Voyez. Et que lui répond notre Seigneur, Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser. Aïe, zut, t'es loupé. Il est dénoncé devant tous les apôtres, vous voyez. Alors Judas, au lieu de rejoindre à ce moment-là les apôtres, parce que il se voit dénoncé, il dit en sens, si je les rejoins, qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas trop, mais enfin, ça a eu de mal se passer, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il recule et à ce moment-là, il revient vers la troupe, vous voyez. Et c'est à ce moment-là, c'est une scène qui est extraordinaire de majesté. Voyez. Notre Seigneur donc vient pratiquement de renvoyer Judas, bon, qui retourne un petit peu avec ceux qu'il veut servir, voyez, puisqu'il l'a abandonné. Voyez. Et à ce moment-là, notre Seigneur seul s'avance vers la troupe, voyez, sans crainte, bien sûr, puisqu'il est Dieu. Hein. Il s'avance vers eux dans un geste d'autorité, de défi, et c'est lui qui prend la parole. Voyez. Il n'attend pas que les autres viennent vers lui, c'est lui qui les interroge. Voyez. Ça, c'est extraordinaire de majesté. Voyez. Les autres viennent l'arrêter, et c'est lui qui va les affronter, qui vient au-devant d'eux et qui leur pose les questions. Qui cherchez-vous? Alors les autres, stupeur, qu'est-ce qui se passe? Voyez, un petit peu décontenancé par cette affaire-là. Voyez. Stupéfait, subjugué, etc. Devant cet acte d'autorité, voyez, dans lequel notre Seigneur même leur manifeste un peu sa puissance, voyez, eh bien, ils reculent, ils se cassent la figure, ils trébuchent. Voilà. Bon, surprise, émotion, tout ce qu'on peut imaginer. En plus, la force surnaturelle, bien sûr, de notre Seigneur, et les voici, eh bien, qui s'étalent, tout simplement. Et pof, voilà. Alors qu'il venait l'arrêter, eh bien, c'est lui qui les jette à terre, tout simplement par une question. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. Et alors, grosse surprise, il recule. Bon, il se relève un petit peu quand même, ça y est, voilà, attention, ça commence mal notre affaire, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu, il se remet, etc. Et notre Seigneur revient vers eux, encore une fois, ouais. Avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, c'est lui qui revient vers eux, ouais, et qui les interroge, qui leur pose encore une fois, une deuxième fois, la même question. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et à ce moment-là, bon, notre Seigneur, oui. Autre façon de répondre, je vous ai dit que c'était moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Oui. Donc cette réponse de notre Seigneur, eh bien, leur manifeste, leur signifie, eh bien, qu'il va se laisser faire, qu'il va se laisser prendre. Oui. Puisqu'il demande à ceux qui viennent l'arrêter de laisser partir les autres. Eh bien, c'est donc lui ne va pas partir. Donc implicitement, il a dit, c'est bien, voilà, faites de moi ce que vous voudrez. Je me livre à vous, mais laissez partir les autres. Ouais. Alors à ce moment-là, les autres, rassurés, ouf, là-bas, c'est bien, vont pouvoir mettre la main dessus. Ça tombe bien, il ne fait rien, il ne bouge plus, il ne se manifeste plus, et donc ils peuvent à ce moment-là mettre la main sur lui. Et c'est à ce moment-là que nous avons ce geste très très touchant de Saint-Pierre, toujours le bon Saint-Pierre, toujours plein de zèle, plein de feu, plein de tout ce qu'on veut. Hein. Ça ne dure pas toujours très longtemps, mais enfin, au moins, il se soulève, c'est bien, quoi. Il se bagarre un petit peu, de temps en temps. Hein. Et la pierre qui intervient, qui tire l'épée, et puis qui coupe donc l'oreille de ce serviteur. Ouais, c'est pas possible, ça. Voir son maître comme ça, saisi par ses valets, etc., c'est insupportable. Ouais. Et notre Seigneur qui le reprend gentiment, Pierre, allez, remets ton épée dans le fourreau, hein, et qui guérit l'oreille, hein, de ce pauvre serviteur. Il a dû être bien surpris de tout ce qui lui est arrivé, on lui coupe l'oreille, on lui recolle l'oreille. Disons. Mais ça va même pas le convertir. Moi, je sais pas, j'aurais été lui, moi j'aurais dit, mais il y a quand même un truc là, peut-être qu'effectivement, cet homme qu'on vient d'arrêter, peut-être qu'il a un pouvoir qui vient d'ailleurs, quoi. Ben non, Apparemment, ça ne l'a pas beaucoup ému. Bon, enfin, voilà. Et donc, notre Seigneur reprend Saint-Pierre, guérit ce serviteur et se livre à ce moment-là, bien de façon définitive, à ses ennemis, mais en leur donnant quand même, avant de se livrer totalement à eux, une dernière leçon. Il les avertit encore une fois, oui, la bonté, je dirais, de notre Seigneur, qui leur donnera toutes les chances, un petit peu, de comprendre un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Il leur donne une leçon. Voilà, vous êtes venus comme un voleur armé d'épées et de bâtons pour me prendre, alors que tous les jours j'étais au milieu de vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez point arrêté. Voilà, ça fait 2 ans, 3 ans que je suis là. J'ai toujours été disponible, si l'on peut dire, et jamais vous n'avez mis la main sur moi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est ces façons de faire? C'est pas honnête, c'est pas loyal ce que vous faites, en gros quoi. Et, bon. Et il ajoute, il leur donne une leçon, il leur rappelle, attention, mais c'est pour que les Écritures soient accomplies, ou bien, selon saint Matthieu, mais tout cela s'est fait afin que ce que les prophètes ont écrit fût accompli. Vous voyez, il les renvoie toujours aux prophètes et aux Écritures. Rappelez-vous, vous êtes en train de faire ce qui était annoncé. Donc si les autres ils connaissaient la loi, ils connaissaient les prophètes, comme de bons juifs, vous voyez, et s'ils avaient réfléchi 2 minutes, ils auraient dû se dire, mais c'est vrai, mais non, mais ça ne va pas, là. Effectivement, on est en train d'accomplir ce qui était prévu. Donc, il est le Messie. Il est celui qui était annoncé. Puisque tout se déroule comme c'était prévu. Bien non. Ils ne comprennent pas, malgré tout. Malgré tous ces avertissements, ces secours que notre Seigneur leur apporte. Mais bien, ils ne comprennent pas. Et donc, ils mettent la main sur lui, ils l'emportent, ils l'emmènent avec lui. Et tous les disciples s'enfuient. Tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Même c'est saint Marc qui nous raconte, il est le seul à nous raconter ce petit épisode. Peut-être était-ce lui, justement, ce disciple-là dont il parle, ou un disciple qui était là, un jeune homme qui le suivait, couvert seulement d'un drap. Bon, sans doute, peut-être qu'il dormait un petit peu dans le coin. Il avait été réveillé un petit peu par tout ce vacarme qui se faisait. Et les soldats qui essaient de lui mettre la main dessus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le drap et il continue tout nu. C'est marqué dans l'Écriture, c'est pas moi qui le dis. Mais lui, rejetant le drap, s'enfuit nu de leurs mains. Bon, voilà. C'est peut-être, pensent les commentateurs, saint Marc lui-même, qui était bien placé pour savoir effectivement ce petit épisode. Ouais, tout à fait, bon, sans importance, mais enfin. Voilà, donc tous les disciples s'enfuient, et notre Seigneur est bien épris, emmené par cette valetaille. Ces bandits, etc., et qui vont l'emmener, donc sans ménagement, ça c'est clair. Hein. Donc, depuis Gethsémani, on va traverser le torrent du Cédron, c'était prévu par les prophètes, par les prophéties. Hein. Il boira l'eau du torrent, hein. Mais effectivement, bon, alors on peut penser justement que sous la violence de ces valets qui ne le ménageaient certainement pas, notre Seigneur est peut-être tombé dans le torrent, oui, pendant ce trajet, étant attaché, lié, c'est pas toujours très facile de se déplacer, de marcher. Ouais. Et notre Seigneur est conduit à ce moment-là, eh bien, chez Anne. Anne, le grand prêtre, donc. Alors, Anne était, vous le savez peut-être, c'est dit là-dedans, Anne était le beau-père de Caïphe. Anne était l'ancien grand prêtre, et les grands prêtres se succédaient, hein, ont changé de grand prêtre. Comme ça, périodiquement, Anne était le beau-père de Caïphe, Caïphe étant le grand prêtre actuel, de Jérusalem, et Anne était donc son beau-père. Mais Anne, étant un ancien, gardait certainement une autorité, un prestige à Jérusalem, une autorité morale au moins, voyez, ce qui fait que précisément, mais c'est d'abord chez lui qu'on va le conduire. Voyez. Et Anne, eh bien, va faire une sorte d'enquête préalable, un premier interrogatoire pour essayer de dégrossir un petit peu le problème, avant de renvoyer notre Seigneur chez son beau-fils, donc chez Caïphe, hein, le grand prêtre de l'époque. Ouais. Et en plus, c'est bien ce petit séjour-là, ce temps d'arrêt chez Anne, va permettre justement au Sanhédrin de se réunir. Ouais, parce qu'il faut un petit peu réveiller tout le monde quand même, tout cela est un petit peu, ce n'est pas prévu aussi rapidement. Donc il faut que les serviteurs aillent un petit peu dans Jérusalem, prévenir tous les membres du Sanhédrin, ils sont 71, donc c'est comme du monde à prévenir, à réunir, donc ça va demander un petit moment. Alors le temps d'arrêt chez Anne va laisser le temps au Sanhédrin de se réunir pour juger notre Seigneur. Oui. Alors, on dit assez souvent, hein, que ce procès est illégal, parce qu'il n'avait pas le droit de le condamner, il n'avait pas le droit de se réunir la nuit, etc., etc. Oui, bon. Alors là, il faut faire attention, hein, parce que ce que nous avons comme élément sur la loi judaïque, la loi qui réglait les procès du temps de notre Seigneur, eh bien, on n'a pas grand-chose. Ce que l'on a, c'est le Talmud, mais le Talmud date du deuxième siècle après notre Seigneur. Alors, oui, faire attention, hein. Ne pas appliquer strictement au temps de notre Seigneur ce qui a été codifié deux siècles après. Il n'est pas du tout évident, vous voyez, que ce soit identique. Alors, mais malgré tout, il semblerait qu'effectivement cette séance de nuit avait un caractère pas véritablement officiel. Ouais. De toute façon, le Sanhédrin avait, quoi qu'on en dise aussi, le Sanhédrin avait tout à fait le droit, le pouvoir de juger, selon la loi judaïque, selon la loi mosaïque. Hein. Si vous avez lu les livres de l'Ancien Testament, il n'y a aucun problème. Il a tout à fait le droit, le pouvoir de porter des jugements et de porter des condamnations, même des condamnations à mort. Là, il n'y a rien à faire, ça. C'est tout à fait permis par la loi mosaïque. Mais n'oublions pas que nous sommes en zone d'occupation. Les Romains sont là, ce sont eux qui ont l'autorité politique, l'autorité publique, oui, et le pouvoir de vie et de mort, eh bien, est réservé aux procurateurs romains. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas le droit d'exécuter leur sentence, voyez, sans l'accord, sans qu'il y ait l'aval donc, de l'autorité politique. Oui. Donc il fallait effectivement que notre Seigneur soit ensuite déféré devant Pilate, qui pouvait à ce moment-là dire eh bien oui ou non. Oui. Bon, reconnaître qu'effectivement la sentence était juste ou qu'elle ne l'était pas. Et c'est pourquoi nous aurons donc ces deux procès, un procès religieux qui va se dérouler de nuit, et au petit matin, en deux temps, trois temps même, nous allons voir. Et ensuite, le procès civil, donc, devant le tribunal de Pilate. Oui. Alors, le procès religieux est assez compliqué. Il n'est pas très simple de s'y retrouver, mais enfin, on va essayer quand même. Mais malgré tout, si on essaie de confronter un peu ce que disent les différents évangélistes, car tous ne disent pas exactement la même chose, oui, Marc et Matthieu, Saint Marc et Saint Matthieu concordent à peu près, et Saint Luc, lui, a un récit un petit peu différent, et Saint Jean également un récit un petit peu différent. Mais quand on arrive à les assembler, tous les quatre, bien, ma foi, on arrive à un récit tout à fait cohérent. Et rappelez-vous toujours, les quatre évangélistes, eh bien, chacun décrit les choses un petit peu comme il les a vues, ou bien cherche à compléter ce que l'autre n'a pas dit, etc. Donc, il n'y a pas toujours une parfaite correspondance, mais ils se complètent. Oui. Et donc, nous aurons dans ce procès religieux trois temps. Le premier temps chez Anne, qui va être très court, ça ne va pas durer très très longtemps, simple interrogatoire préliminaire, oui, chez Anne. Ensuite, dans la nuit. Bon, dans la nuit, 1h, 2h du matin, bon, c'est pas trop, mais enfin, quelque chose comme ça, sans doute. Deuxième procès, donc dans la nuit, devant une partie du conseil. Bon, il y a une partie du Sanhédrin qui est là, mais tout le Sanhédrin n'est pas encore rassemblé. Sans doute les plus acharnés, les plus décidés, ceux qui sont venus peut-être justement chercher notre Seigneur à Gethsémanie, qui vraiment veulent sa mort, vous voyez, et qui sont là. Donc cette séance de nuit, où on va essayer un petit peu de cerner le problème, de voir un peu comment réagit notre Seigneur, quelles sont ses réponses, pour bien situer les chefs d'accusation. Comment va-t-on faire? Comment peut-on procéder pour le condamner? Qu'est-ce qu'il faut trouver, hein, pour que vraiment nous ayons un motif de le condamner, voyez? Donc, il y a une sorte de préparation. Et puis ensuite, le troisième, alors le dernier procès religieux, qui va se dérouler au matin, à l'aube, nous dit l'Évangile, voyez, qui est alors le procès lui-même, procès légal, officiel, religieux, hein, et devant le conseil au complet, devant le Sanhédrin au complet, donc les 71 membres du Sanhédrin seront réunis, et là, ça sera le procès officiel qui ne fera qu'entériner, reprendre ce qui aura été déjà mijoté, préparé, voyez, dans la séance de nuit. Donc trois séances, voyez, pour ce procès religieux. Oui, comme quoi, ils font bien les choses. Hein. Il ne s'agit pas de faire ça à la va-vite. Non, trois. Anne, Caïphe, et ensuite Caïphe au petit matin. Et ce procès est extraordinaire. Hein. Les réponses de notre Seigneur sont très brèves, très courtes, très denses, très simples. Oui. Mais c'est peut-être le moment le plus important pour nous-mêmes. Oui. Parce que c'est là, et c'est uniquement là, que notre Seigneur proclame finalement sa divinité. C'est la première fois. devant Caïphe, eh bien, puisque tu me poses des questions, tu me demandes si je suis le Fils de Dieu, eh bien oui, je le suis. Il ne l'avait jamais fait encore, hein. Pendant toute sa vie publique, jamais encore il n'avait affirmé de façon explicite, claire, voyez, sa messianité, sa divinité, sa filiation divine. Jamais il ne l'avait fait. Il avait toujours évité, au contraire, de trop affirmer, voyez, sa nature divine, justement, mais pour avoir le temps, bien, de continuer sa mission, d'enseigner, de prêcher, bon, pour qu'on ne l'arrête pas trop tôt, justement. Voyez. Maintenant, il est arrêté. Son heure est venue, donc là, cette fois, il peut dire toute la vérité, et effectivement, c'est ce qu'il fait. Et donc, c'est un moment qui, pour nous, est capital, pour notre foi. Hein. C'est là la seule fois, pratiquement, où notre Seigneur, eh bien, affirme ce qu'il est, manifeste ce qu'il est. Hein. Et c'est d'ailleurs en raison de cela, c'est en raison de cette confession de sa divinité qu'il sera accusé de blasphème. Et voilà la grande accusation, hein, blasphème, et qu'il sera condamné comme passible de la mort. Hein. Oui, cette confession que fait notre Seigneur de sa divinité sera donc à la fois cause de sa mort et également cause de notre foi, fondement de notre foi. Oui, le fondement de notre foi est la cause de la mort de notre Seigneur. Oui. Comme dit un auteur, oui, c'était son arrêt de mort qu'il prononçait, c'était aussi son témoignage suprême. Voilà. Oui, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, et c'est pourquoi on va le mettre à mort. Alors, y a-t-il vraiment méprise, tragique méprise du Sanhédrin ? Bon, je vous laisse juger. Donc, voici cette première séance, d'abord chez Anne. Anne, donc, qui a gardé cette autorité morale, qui n'a pas de pouvoir officiel, juridique, qui ne peut pas prendre de décision, mais il va un petit peu, vous voyez, commencer à faire l'enquête préliminaire, si vous voulez, je ne sais pas comment on appelle ça dans la justice, etc. Mais enfin, voilà, une sorte de petit interrogatoire, hein, pour voir de quoi il retourne. Oui. Et sur quoi Anne interroge notre Seigneur ? Eh bien, l'Évangile nous le dit tout simplement sur ses disciples et sur son enseignement. Voilà, donc, bon, qui sont tes disciples ? Qu'est-ce que tu enseignes ? Et notre Seigneur ne lui répond pas. Il ne lui répond pas, mais pourquoi tu me poses cette question, en gros ? Ça fait 3 ans que je le dis, ça. Voilà. En gros, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Alors pourquoi m'interroges-tu ? Voilà. Demande à ceux qui m'ont entendu. Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Eux savent ce que j'ai enseigné. Voilà. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Demande aux témoins. Voilà. Tout Jérusalem m'a entendu. Eh bien, interroge les témoins. Bon, on n'est pas très satisfait, c'est pas tout à fait ce qu'il attendait comme réponse, ouais. Donc, notre Seigneur, si vous voulez, refuse de lui répondre, pratiquement, et l'oblige, eh bien, à faire son enquête lui-même. Mais fais ton travail, quoi. Fais ton enquête. Tu veux savoir ce que j'ai dit ? Eh bien, interroge les témoins. Et ça, c'est... Nous verrons, c'est important, cela, parce que dans la loi judaïque, la loi mosaïque, et je pense dans toute loi civile normale, vous voyez, on ne peut jamais être témoin pour soi-même. Ouais, il faut des témoins extérieurs. Si je dis, ben voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai dit, bon, qui va me croire ? Il faut des témoins. Et dans la loi mosaïque, il fallait même 2 témoins pour que le témoignage soit et valeur juridique, valeur officielle. Il fallait 2 témoins. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit à Anne, ben, fais ton enquête, moi. Fais ton métier, tu es là pour ça. Tu m'as arrêté, ben maintenant, ben, vas-y, fais ton travail. Moi, je ne répondrai pas. Demande à ceux qui m'ont entendu. Alors, Anne, sans doute, pas très, très satisfait de cette réponse. Bon, on ne sait pas tout, mais enfin, sans doute, a-t-il été un petit peu agacé. Et à ce moment-là, bien sûr, toujours des gens très zélés, hein, qui entourent les grands hommes, vous voyez, qu'il faut se faire bien voir. Hein. De toute façon, si on peut avoir un petit avancement, on ne sait jamais, un serviteur tout à fait zélé qui intervient et qui donne un soufflet à notre Seigneur. Mais enfin, est-ce que c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Qu'a fait notre Seigneur ? Il a été poli. Il le dit simplement, ben, interroge les témoins, mais voilà, oui, serviteur très zélé, est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Et cette très belle réponse de notre Seigneur, ben, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Bon, alors Anne voit bien que ça ne va pas très très bien, l'affaire n'est pas très bien emmanchée, alors il va se débarrasser tout simplement de l'affaire et renvoyer notre Seigneur à Caïphe, donc le grand prêtre officiel, le grand prêtre qui a l'autorité pour faire le véritable procès la véritable enquête officielle, bon, lui, pratiquement, il n'a rien pu tirer, rien pu savoir, hein, les choses se sont trop mal passées, donc, pour les accusateurs, là, pratiquement, eh bien, c'est déjà un premier échec. Hein. Et pendant ce temps-là, c'est là qu'intervient ce premier événement bien, bien douloureux. C'est notre bon Saint-Pierre, hein, notre bon Saint-Pierre. Notre Seigneur, donc, a été emmené hein, jusqu'au palais de Caïphe, au palais de Anne. J'ai oublié de vous le dire, mais enfin, il est probable, hein, d'après les recherches archéologiques, que Anne et Caïphe logeaient pratiquement côte à côte. Hein, un corps de logis, si vous voulez, où chacun avait un petit peu son appartement ou son palais. Bon, ils sont tout assez somptueux, ça j'imagine, vous voyez, mais pratiquement localisés au même endroit, à peu près. Bon, ce n'est pas certain, cela. Mais ce qui explique, en tout cas, facilement, la rapidité des déplacements, vous voyez, de Anne chez Caïphe, etc. C'est donc rien de plus facile. Donc, sans doute, deux corps de logis, si vous voulez, bon, Anne d'un côté, Caïphe de l'autre, et puis entre les deux, ou de façon commune, bon, une cour, bon, qui servait donc aux deux logis d'Anne et de Caïphe. Et donc, le bon Saint-Pierre, après s'être enfui, là-bas, du jardin des Oliviers, bon, sans doute a-t-il été un peu pris de remords, comme dit quand même. Tout à l'heure, je lui promettais de le suivre jusqu'au bout, de mourir avec lui. Après, je l'ai défendu, j'ai même coupé l'oreille à l'ozigoto, etc. Puis maintenant, je l'étale, ça va pas très bien, ça, quand même. Bon, et puis, donc, peut-être un petit remords, et puis, bon, ben voilà, il est revenu. Et il a suivi la troupe, de loin, sans doute. Pas trop près, quand même, mais pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Et peut-être même les autres apôtres, ce n'est pas inimaginable hein, que toute la troupe des apôtres qui ont détalé, après sont revenus pour voir un petit peu comment les choses allaient tourner, et suivent donc la cohorte d'assez loin. Et arrivé au palais de Caïphe, au palais de Danne, pardon, eh bien Simon-Pierre suivait Jésus avec un autre disciple. Un autre disciple, c'est saint Jean qui parle, et cet autre disciple est très certainement saint Jean. Lui-même, ouais. Saint Jean qui était vraisemblablement un familier du temple, familier même du grand prêtre, qui était connu des serviteurs du temple, des serviteurs du grand prêtre. Ouais. Donc voici donc Saint Pierre et Saint Jean qui arrivent un petit peu après la troupe au palais d'Anne. Et ce disciple, cet autre disciple, Saint Jean, était connu du grand prêtre. Ouais, il était connu du grand prêtre. Et il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Il entre donc, il rentre dans la cour, là. Mais Pierre, lui, se tenait dehors près de la porte. Pierre, lui, n'était pas très connu, n'était pas connu des serviteurs, et il n'ose pas rentrer. Donc Saint Jean rentre, mais Pierre, lui, préfère rester dehors, dire, voilà, toujours un petit peu craintif quand même. Et l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit donc et parla à la portière et fit entrer Saint-Pierre. Donc Saint-Jean est rentré, dit « Tiens, il ne m'a pas suivi », il revient chercher Saint-Pierre et il dit à la servante « Bon, allez, je le connais, celui-là, c'est un ami, pas de problème, on peut le faire rentrer, il n'y a rien à craindre ». Et donc Saint-Pierre, à ce moment-là, rentre dans la cour avec Saint-Jean et la servante qui est là, la concierge, là, lui dit « Donc, toi, je te connais, toi ». Le concierge, elle a tout vu, on voit tout, ça c'est clair. Mais n'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme? Oui, donc Saint-Pierre qui est en train de rentrer, pour essayer de voir un petit peu ce qui va se passer, pas très rassuré, quand même, misère, qu'est-ce qui va m'arriver hein. Et voilà la servante qui dit, enfin n'es-tu pas toi aussi des disciples de cet homme? Bon, non, je n'en suis pas. Bon, voilà. Et Saint-Pierre donc rentre dans la cour avec Saint-Jean, et Saint-Pierre, sans doute, rentrant dans la cour, il voit là dans la cour un feu où sont rassemblés les serviteurs, etc. Nous sommes au mois d'avril à Jérusalem, il ne fait pas très chaud, donc ben voilà, il y a toute la troupe qui est là dehors, les serviteurs d'Anne, de Caïphe, qui sont en train de faire la causette, attendre que ça se passe, vous voyez, se chauffent auprès du feu. Et Saint-Pierre, ben, il va aussi chauffer un petit peu, comme ça, un petit peu gêné, n'osant pas trop quand même s'approcher, mais ayant envie de se chauffer un petit peu quand même, vous voyez, bon. Voilà, et puis voilà, me semble-t-il que cette brave concierge, eh bien, elle l'a suivi, là. Elle vient, elle aussi, près du feu, puis elle commence à causer. Vous savez, celui-là, je crois bien que, méfiez-vous, etc. Et les autres qui commencent à l'interroger, mais dis donc, toi, qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? D'où viens-tu? Etc. Bon, tout tout un petit remue-ménage qui s'est fait autour du feu. Notre pauvre Saint-Pierre, bien ennuyé. À sa place, j'avoue, je crois que j'aurais pas été très fier non plus, si vous voulez. Il ne faut pas non plus être trop difficile. Oui. Et Saint-Pierre, ben, comme s'il ne comprenait pas. Hein. Je ne sais pas ce que tu dis. Oui, toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. De Galilée. Mais je ne sais pas ce que tu dis, non. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu dis, mais de qui parles-tu? Bon, et même quand même, bon, un petit peu de négation. Bon, il fait semblant de ne pas comprendre, mais en tout cas. Bon, et puis, un petit peu gêné devant toute cette troupe-là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un petit moment, il dit, bon, ben, je crois que ça sent vraiment trop mauvais par ici, trop dangereux. Il s'écarte du groupe et il revient vers la porte, là. Puis quoi, un petit peu plus à l'écart, oui. Et puis là, ben, qu'il s'y retrouve, il retrouve la concierge qui est là encore, qui est revenue à son poste, qu'est-ce que vous voulez faire? Et qui commence encore à le chatouiller, à le chicaner, comme on dit dans cette région, etc. Mais cette commère qui est là, qui va me fiche la paix, c'est pas possible. Voyez. Et que fait-il? Eh bien, encore une fois, là, il nie de nouveau. Je ne connais pas cet homme. Alors, on parle de trois reniements de Saint-Pierre. Hein. Bon, en fait, il faut plutôt parler de trois groupes de reniement. Oui. Ici, nous en avons, si vous voulez, deux, parce qu'il y aura un troisième reniement tout à l'heure. Dans une heure, Saint-Pierre va renier encore une fois notre Seigneur. Oui. Là, donc, oui, ça fait en gros deux groupes de reniement. Bon, groupez cela comme vous le voulez. Toujours est-il, eh bien, que c'est après ce deuxième reniement, eh bien, que le coq chante une première fois. Peut-être Saint-Pierre n'y fait-il pas très attention, mais il a dû quand même enregistrer ce chant du coq, puisque tout à l'heure, quand il y aura le deuxième chant du coq, là, il comprendra ce que ça veut dire. Oui. Donc, pendant cette scène-là, eh bien, que s'est-il passé? Notre Seigneur a été renvoyé depuis le tribunal d'Anne jusqu'au tribunal de Caïphe, jusqu'à la maison de Caïphe. Oui. Où là, eh bien, il va se dérouler donc le deuxième temps, le deuxième épisode, du procès religieux, qui ne sera pas encore le véritable procès. Le véritable procès se fera donc au petit matin. Ici, donc, notre Seigneur se retrouve face à ses adversaires les plus acharnés, ceux qui le suivent depuis tout à l'heure et qui ne le lâchent pas, hein, qui sont là et qui ne veulent vraiment pas laisser échapper leur proie. Hein. Alors, que fait le groupe qui est là? Ce n'est pas encore le Sanhédrin au complet. Hein, que fait Caïphe avec le groupe des adversaires de notre Seigneur qui sont là? Eh bien, il va essayer de trouver quelques témoins. Il faut trouver des témoins. C'est ça le grand problème. Hein. Il faut des témoins, des gens qui sont capables de témoigner du péché, du crime de Jésus-Christ, de cet homme. Donc, il faut trouver de nombreux témoins. Et même des faux témoins, pourquoi pas, après tout. Hein. Cependant, les princes et des prêtres cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvèrent point, quoique beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Il ne manque jamais des faux témoins, là, c'est clair, on en trouve tant qu'on veut des faux témoins. Oui. Et leurs témoignages, en plus, ça c'est très ennuyeux, ne sont pas concordants. Bon, des faux témoins qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, que ça joue pas, donc ils sont bien ennuyés. Donc, ils veulent donner à ce procès quand même un semblant, une apparence de l'égalité, mais ils ne trouvent pas ces deux témoins nécessaires. Et enfin, ça y est, on trouve deux faux témoins qui arrivent à se mettre à peu près d'accord. À peu près, c'est pas tout à fait parfait, mais enfin, en gros, l'accusation est en gros la même. Sur quoi porte l'accusation? Eh bien, sur la destruction du temple. Voilà, un qui dit qu'il l'a entendu dire « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours ». Et l'autre, je détruirai ce temple fait de main d'homme en 3 jours, j'en rebâtirai un autre non fait de main d'homme. Voilà, ça y est. Voilà, le grand crime, il menace de détruire le temple. On parlait d'un crime. C'était invraisemblable. Comment ils ont pu retenir un chef d'accusation pareil? Voilà, cet homme seul là qui ne menace même pas, qui dit je peux détruire le temple. Bon, où est le crime? À la limite, ça serait de la vantardise, de la prétention. Mais alors, comme crime, hein. Bon, est-ce que ça mérite la mort? Oui. Alors, c'est pas tout à fait suffisant, quand même. Bon, d'autant plus, vous voyez, qu'il y a quand même quelques difficultés, même d'interprétation. Parce que, quand même, pour prendre ça au sérieux, faut être un petit peu demeuré, quoi. Bon, quelle est la signification? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, exactement? une formule, je dirais, spirituelle. Bon, de quel temple parle-t-il? Est-ce que vraiment il veut détruire ce temple matériellement, etc.? Pas très vraisemblable, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, oui? Donc, c'est pas très, très... Bon, c'est utile quand même d'avoir ce double témoignage, mais c'est pas très, très précis. Ouais. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, eh bien, Caïphe, eh bien, se tourne vers notre Seigneur et lui dit, bon, pour essayer un petit peu d'avoir quelque chose d'en plus, oui. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus en disant, tu ne réponds rien à ce que ces hommes déposent contre toi. Oui, il faut faire parler Jésus-Christ, il n'a rien dit jusqu'ici, rien. Il faut le faire parler, s'il peut dire quelque chose un petit peu de contre lui, qui peut permettre de l'accuser plus, de façon plus positive, vous voyez. Mais notre Seigneur se tait. Et Jésus tacebat. Il se taisait. Il ne répond pas. Caïphe n'est pas content. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, un homme qu'on veut mettre à mort et qui se tait, qui ne se défend même pas. Il ne répondit rien. Alors le grand prêtre, eh bien, s'énerve un petit peu, si l'on peut dire. Et à ce moment-là, même peut-être, qui sait, hein, sous l'effet d'une inspiration, d'une grâce peut-être actuelle, eh bien, c'est là qu'il va provoquer Jésus-Christ à faire sa grande proclamation. Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ben, c'est la grande question, qui jamais jusqu'ici n'avait été posée de cette façon à Jésus-Christ. Je t'adjure. Donc là, vraiment, c'est solennel, hein, c'est grandiose comme demande, comme question. Je t'adjure par le Dieu vivant, donc au nom du Dieu vivant, de me dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Double question, ouais. Le Christ, le Fils de Dieu. C'est deux choses différentes. Hein. Le Christ, c'est le Messie. Bon, le Messie, dans les prophéties, il n'était pas évident que le Messie serait le Fils de Dieu. C'est deux concepts différents. Le Christ, c'est le Messie, c'est l'envoyé, bon, loin de Dieu. Et puis le Fils de Dieu, alors là, le Fils de Dieu, ben, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oui, donc, mais, bon, Caïphe, semble-t-il, volontairement ou inconsciemment, ça, nous ne savons pas, télescope peut-être un petit peu les deux significations et identifie là les deux qualificatifs, si vous voulez, de Christ et de Fils de Dieu. Et là, vraiment, c'est le moment le plus solennel, sans doute, de ce procès, hein, puisque là, vous voyez, notre Seigneur est devant l'autorité suprême en Israël. Voilà, il est vraiment le grand prêtre et le représentant du Dieu vivant en Israël. C'est vraiment l'autorité la plus haute en Israël. Oui. Et donc, eh bien, c'est devant cette autorité la plus haute, eh bien, que Jésus-Christ va faire ouvertement, déclarer ouvertement sa qualité, sa divinité. Tu l'as dit, je le suis. Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Aïe. Ça, c'est la proclamation peut-être la plus belle, la plus solennelle, la plus grande, la plus claire, en tout cas, que Jésus-Christ ait faite aux hommes de sa divinité. Bon, les évangélistes ont à peu près la même formule. Ça, c'était Saint Marc. Saint Matthieu nous rapporte, tu l'as dit, « Car je vous le dis, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Oui, donc ça, c'est vraiment, c'est l'affirmation très, très claire de sa divinité. Oui. Et alors, évidemment, bien sûr, devant cette affirmation, c'est la question, il avait posé la question, il a la réponse, et c'est le scandale, bien sûr, scandale du grand prêtre, hein, qui, pour bien manifester, je dirais, son scandale et sa colère, etc., eh bien, déchire même son vêtement. C'était un geste tout à fait, non pas liturgique, mais tout à fait traditionnel, pour manifester la douleur, vous voyez, déchire son vêtement, il a blasphémé. Voilà, le blasphème. Et si vous réfléchissez, vous voyez, à la proclamation qu'a fait notre Seigneur, où est le blasphème? Oui, le blasphème, c'est injurier Dieu, c'est insulter le nom de Dieu. Où notre Seigneur a-t-il insulté le nom de Dieu? Où a-t-il offensé le nom de Dieu? Tu l'as dit? Il a dit, mais oui, je suis le Fils de Dieu, donc je vous l'ai dit, dès ce jour, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir sur les nuées du ciel. Il n'y a aucun blasphème là-dedans. Peut-être, à la limite, encore une fois, de l'avantardise ou tout ce qu'on peut imaginer, ça, mais pour qui il se prend celui-là? Bon, ça peut-être, bon. Mais où est le blasphème? Mais non, blasphème. Que cet homme ose prétendre, eh bien, qu'il est le Fils de Dieu, ça, c'est insupportable. Insupportable. Il a blasphémé Qu'avons-nous besoin encore de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème que vous ensemble, et tous bien sûr, ils n'attendaient que ça. Et tous qu'ils attendaient, ils méritent la mort. Voilà, ça y est. La condamnation est prononcée. Et vous voyez un petit peu les motifs de la condamnation? C'est d'une futilité, c'est rien. Oui, oui, la réalité du motif, rien. Oui. Voilà, donc il mérite la mort. Oui. Ah, il est clair hein, que c'est là qu'est l'illégalité. S'il y a égalité, effectivement, c'est une condamnation tout à fait injuste pour un motif qui n'en est pas un. Ce n'est pas un vrai blasphème, cela. Oui, ce n'est pas du tout un faux blasphème. Et en plus, illégalité, eh bien, précisément, dans la procédure, parce que les deux témoins ne sont pas là. On va l'accuser de blasphème, mais il manque les deux témoins. Vous voyez, c'est là. Et sur quoi l'accuse-t-on de blasphème? Et bien sûr, ce que lui-même a dit. Donc, c'est lui-même qui est son propre témoin, ce qui est strictement illégal, cela. Vous voyez. Et en fait, vous voyez, si vous réfléchissez un petit peu à ce procès, on a voulu le condamner pour ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit pendant ces 3 années de vie publique, etc. Bon, puis finalement, il s'aperçoit bien qu'il n'y a pas de motif à condamnation dans tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le provoquer. Vous voyez, on a un innocent entre les mains et on va le provoquer à quelque chose pour lequel on va le condamner. Et donc, on le condamne pour ce qui s'est passé dans ce procès. Mais c'est inimaginable, ça. Voilà l'illégalité. Elle est là. Alors là, c'est clair. Là, c'est même plus qu'une illégalité, c'est une injustice profonde. C'est une impiété, tout ce qu'on veut. Vous voyez. On a un innocent, on n'arrive pas à le condamner, on ne trouve rien contre lui. Alors, bon, si on peut dire, on le pousse un peu dans ses retranchements pour qu'il dise quelque chose qui permette de le condamner. C'est immonde, ça. Immonde. Oui. Alors là, bien sûr, hein, ça c'est... Et c'est le seul motif hein, qu'ils vont retenir ensuite pour sa condamnation. Voilà, donc cette séance de nuit, hein, vous avez entendu le blasphème que vous ensemble, et bien tous, bien sûr, hein, ils méritent la mort. Ouais. Alors cela a duré sans doute un certain temps. Hein, il était, quand cette séance de nuit a commencé, sans doute vers les 2 heures du matin, cela a sans doute duré à peu près 1 heure, oui, cette séance. Bon, là, bien sûr, les évangélistes ne rapportent que l'essentiel, ils ne rapportent pas tous les détails de l'événement. Hein. Et pendant ce temps-là, justement, mais c'est à ce moment-là, du moins, hein, notre Seigneur, après cette sentence, donc de mort, va être emmené pour attendre l'aube. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que va se dérouler, à peu près, donc il est 3 heures du matin, à peu près maintenant, que va se dérouler, eh bien, le troisième reniement de Saint-Pierre, hein, voilà, notre bon Saint-Pierre qui est là dans la cour, il tourne un peu en rond dans tous les sens, il va vers le feu, la concierge, il est un petit peu, il veut pas partir parce qu'il veut voir un peu quand même comment tout ça va finir, il ne veut pas abandonner son maître, mais enfin, il est un petit peu... Et puis, donc, voilà, un petit groupe qui s'approche de lui et qui le voilà, qui l'agresse un petit peu, si l'on peut dire, mais certainement, toi aussi, tu es de ces gens-là. Tu es galiléen, car ton langage même te fait connaître. Et il avait l'accent. Je ne sais pas quel était l'accent de la Galilée, ça, c'est, je ne sais pas, mais enfin. Donc, sans doute, hein, tu as l'accent de ce pays-là, tu es certainement des pêcheurs qui l'ont suivi, certainement, tu es de cette troupe-là. Et même, oui, eh bien, il y a quelqu'un qui était au jardin des Oliviers, qui était là, qui me dit, mais je t'ai vu tout à l'heure au jardin avec lui. Et c'était, nous dit l'évangéliste, hein, un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, est-ce que je n'étais pas vu dans le jardin avec lui? Ouh là là, mais Pierre, le pauvre Pierre, eh bien, non. Non, je m'ai vu, je ne connais pas. Et même, nous dit l'évangéliste, il se mit alors à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Là, Pierre, il est un petit peu, pas le désespoir, mais vraiment, il se voit un petit peu coincé de tous les côtés. Qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Il est rentré pour suivre son maître, mais il n'a pas tout à fait envie de le suivre jusqu'au bout, quand même. Bon, voilà. Bon, donc, il y a du bien. Il est touchant, ce pauvre Saint-Pierre. Et en même temps, bon, voilà. Hein, bon, donc, il s'est vocifère tant qu'il peut pour essayer de convaincre, eh bien, ces enquiquineurs, si on peut dire, mais laissez-moi tranquille, quoi, tout simplement, c'est ça, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse tranquille, bon, voilà. Et puis, donc ça le conduit, bien, à renier quand même Jésus-Christ. Alors comprenez bien, oui, ce reniement de Saint-Pierre, bien sûr, ça nous scandalise, mais Ça n'est pas, c'est un peu une apostasie, c'est clair. Hein. Pas question pour lui de renier son maître, de renier Jésus-Christ, mais le pauvre, il est là, il ne sait plus comment s'en sortir, il se voit pris un peu de tous les côtés, il se débat un peu comme un poisson, là, etc. Donc c'est pas un acte qui jaillit vraiment du fond de lui-même, hein. C'est un peu des réactions de sensibilité, de panique, hein, devant la situation. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Eh bien, le coq chante pour la seconde fois. Et à ce moment-là, sans doute, même certainement, que notre Seigneur quitte le tribunal de Caïphe pour être emmené dans une cave, sans doute, pour être enfermé, traverse la cour. Et que se passe-t-il ? Eh bien, il regarde Saint-Pierre. Et Saint-Pierre regarde notre Seigneur. Et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Voilà. Voilà la grande vertu de Saint-Pierre, je dirais. C'est ça qui l'a sauvé. Il a fait une boulette, mais il a regardé notre Seigneur. Voilà. Il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas désespéré. Il a eu quand même encore lié la simplicité, la confiance de lever les yeux vers celui qu'il venait de trahir. Notre Seigneur l'a regardé. Un regard qui a dû en dire très, très long. Sûrement pas un regard de condamnation, un petit regard de tendresse, de reproche, bien sûr, mais très bonne, ça certainement. Et le pauvre Saint-Pierre, il a bien compris ce que ça voulait dire. Et puis, c'est bien, mais il faut pleurer de temps en temps, comme ça. Quand on a péché, on a offensé notre Seigneur, il faut oser le regarder dans les yeux. Et à ce moment-là, on a envie de pleurer. C'est bien, ça. À ce moment-là, on peut pleurer. Voilà. C'est ce qu'a fait Saint-Pierre, et c'est ce que ne fera pas Judas, hélas. Et Judas n'aura pas cette simplicité de venir regarder notre Seigneur, simplement. Ça lui aurait suffi. Ça l'aurait sauvé, certainement. Ouais. Et notre Seigneur est emmené dans, on ne sait pas trop où, hein, dans une prison, certainement. Donc il est à peu près 3h du matin. Il faut attendre le lever du jour vers 5h à peu près, 5-6h. Et pendant ce temps-là, notre Seigneur va être abandonné aux mains des gardes du Sanhédrin. Alors les gardes, c'est des soldats. Pas toujours des gens très 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 évolués, très très tendres, très très délicats. Et pendant ces 2 heures, ils vont s'amuser, se jouer de lui. L'évangélisme dit peu de choses, mais ce qu'il en dit est très largement suffisant. Nous pouvons imaginer 1000 autres choses, sans doute. Ils lui crachèrent au visage, le frappèrent à coups de poing et d'autres lui donnèrent des soufflets. Mais se moquant de lui, prophétise-nous Christ, qui est-ce qui t'a frappé ? Voilà, puisque tu te présentes comme le grand prophète, tu en as fait des prophéties, et bien maintenant dis-moi un peu, qui est-ce qui t'a frappé ? C'est infâme, des choses comme ça. Voilà, cet homme-là qui est là, lié, ligoté, qui ne peut rien faire, etc., et dont on se moque, on lui crache au visage, on le couvre d'insultes, d'outrages, et cela va durer 2 heures à peu près, entre 2 et 3 heures. Il faut donc attendre le lever du jour pour le procès officiel, le véritable procès religieux qui va se dérouler, c'est la séance du matin, devant le Sanhédrin au complet, devant tout le conseil, comme nous dit Saint-Luc. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, les princes des prêtres et les scribes s'assemblèrent. Ce sont les trois groupes qui composent le Sanhédrin, les anciens, les sages, les vieux, tous les gens les plus anciens, les princes des prêtres, tous ceux qui avaient occupé le poste de grand prêtre, et puis les scribes, qui s'assemblent, et tout cela compose le Sanhédrin, 70 membres, plus bien sûr le grand prêtre Caïphe, qui préside ce conseil. Là, l'évangéliste est très très court sur cette séance. Sans doute ont-ils repris les accusations de la nuit, simplement, et essayer de voir un petit peu quel était le chef d'accusation. Et l'ayant fait venir dans leur conseil, ils lui dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Donc ils reprennent l'accusation de la nuit. Voilà, si tu es le Christ, dis-le nous. Et cette réponse aussi, notre Seigneur a l'art de faire des réponses auxquelles on ne sait plus quoi répondre. Ça, c'est normal. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Bon, ce n'est pas la peine que je vous réponde. Quoi que je dise, de toute façon, ma mort est décidée. Et si je vous interroge, mais si moi je vous pose des questions, vous ne me répondrez pas. Et vous ne me relâcherez pas. Donc là quoi ? Pourquoi perdre notre temps à discuter, à parler ? Mais désormais, Il renouvelle un petit peu ça, il renouvelle sa proclamation. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Hein, il reprend, hein, façon peut-être un petit peu atténuée, sa proclamation de la nuit. Et alors tous, à ce moment-là. Hein. Et donc, tu es le Fils de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut absolument, là-dessus, qu'il faut le tenir, le coincer. Eh bien, vous le dites, je le suis. Il sait très bien que cette proclamation, c'est sa condamnation à mort, mais il est venu pour cela, justement. Il va le dire à Pilate tout à l'heure, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Et donc, c'était sûrement pas le moment de se taire. Au contraire, c'était le moment où il devait proclamer sa divinité. Vous le dites, je le suis. Qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Voilà. Voilà, le sort de notre Seigneur est joué. Il est condamné par les Juifs, par son peuple. Par ceux qu'il était venu sauver, par ceux qu'il était venu délivrer, le peuple élu, que Dieu avait entouré de ses prévenances depuis des milliers d'années, hein, eh bien c'est ce peuple élu qui le condamne à mort. C'est inimaginable cela. Alors, où est la méprise là-dedans, moi? La tragique méprise du Sanhédrin, hein. Bon, hein, je ne sais pas très bien. Vous voyez, notre Seigneur donc s'est proclamé à la fois Messie d'Israël et Fils de Dieu. S'étant proclamé Fils de Dieu, donc il est condamné pour blasphème par le Sanhédrin, et s'étant proclamé Messie d'Israël, alors là, il va pouvoir être condamné pour un motif politique. Le Messie d'Israël, le roi d'Israël, alors là, attention, ça c'est une question de l'ordre matériel, de l'ordre temporel, l'ordre de la cité. Hein. Donc, eh bien, c'est cela qu'on va retenir, justement, pour le présenter ensuite à Pilate. Oui. Et donc, notre Seigneur, à ce moment-là, va être conduit, donc on est au lever du jour, à peu près, va être conduit au tribunal de Pilate. Et c'est à ce moment-là bien qu'intervient un autre événement avant de voir ce procès politique, là, civil du moins. Eh bien, c'est notre pauvre Judas. Notre pauvre Judas qui peut-être était resté aussi dans le coin et puis qui voit finalement eh bien, les conséquences de son acte. Et sans doute bouleversé au fond de lui-même, car malgré tout, n'oublions pas que Judas était un disciple, était un apôtre, choisi de notre Seigneur. Hein. Pendant 3 ans, il avait suivi Jésus-Christ, bon, peut-être avec parfois des petits moments de un peu plus difficiles, mais enfin, il aimait Jésus-Christ quand même. Ça, il n'y a rien à faire. On ne peut pas dire que Judas n'aimait pas Jésus-Christ. Il avait au fond de lui vraiment un amour très profond pour notre Seigneur, mais aussi, bon, peut-être un petit peu l'amour de... aussi l'amour un peu trop puissant de l'argent, oui. Mais malgré tout, vous voyez, ben, voyant les conséquences de son acte, eh bien, c'est l'amour de Jésus-Christ qui reprend le dessus, et l'amour de l'argent, ben, ma foi, qui est évacué. Quoi. Et il est bouleversé, complètement bouleversé par ce qu'il voit, ce qu'il vient d'entendre. Celui qu'il aime est condamné, celui qu'il aime va mourir. Et donc, que fait-il? Eh bien, il se précipite vers les prêtres. Là, donc, notre Seigneur sans doute est sorti maintenant. On l'emmène vers Pilate. Bon, nous allons voir après où est-ce que cela se trouve. C'est pas très très loin. Il se précipite donc chez les princes des prêtres et bouleversé leur dit « Mais non, c'est pas possible, c'est arrêté, arrêté. J'ai péché en livrant le sang innocent. » Il n'en peut plus, il dit « Faut, c'est pas possible, c'est trop grave ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, arrêtez ça. Hein. » Et à ce moment-là, les membres du Sanhédrin, c'est ignoble cela, très froid, très très sûr de même. Que nous importe, c'est ton affaire. Tu nous as rendu service, tu l'as trahi, tu nous l'as livré, c'est tout ce qui nous intéressait. Maintenant, débrouille-toi. Voilà. Tu as rempli ton rôle, on s'est bien servi de toi, tu nous as bien servi, maintenant, c'est plus notre affaire. Voilà. Tu as une conscience, moi, débrouille-toi avec ça. Tignol, ouais, des corrupteurs, ils l'ont corrompu, véritablement, et puis voilà, ce pauvre homme qui est là, qui ne sait plus comment s'en sortir, eh bien, on le rejette. Ou le, moi, je ne sais pas, ils auraient pu lui dire, bon, enfin, n'a pas peur, viens ici, on va s'occuper de toi. Bon, quoi, moi, ce qu'on peut imaginer, non, puis, débrouille-toi. Voilà. Il fallait, justement, mais je dirais, ouais, c'est une façon pour eux de s'innocenter. C'est toi le coupable, finalement, c'est pas nous. Il ne fallait pas faire ce que tu as fait, tu voulais. Bon, terminé. La trahison, donc, Judas restera seul coupable de la trahison. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, hein, chacun chez soi. Voilà. Tu nous l'as amené, bon, maintenant débrouille-toi. Donc il faut que tout le poids de la trahison retombe sur ce pauvre Judas. Alors ce pauvre Judas, complètement complètement affolé. Donc, vous voyez, nous sommes chez Caïphe, là, ici, qui court à travers la ville, sans doute, et qui court jusqu'au temple. Le temple, qui est le sanctuaire. Donc, il court vers Dieu, finalement. Il court vers Dieu, et que fait-il? Arrivé au sanctuaire, bon, il ne peut pas pénétrer dans le sanctuaire, mais alors, que fait-il? Eh bien, il jette vers le sanctuaire, eh bien, ces 30 deniers qu'il avait gagnés, hein, qui est une somme considérable, hein, qu'il jette donc vers le sanctuaire, là, comme pour un petit peu se débarrasser de son péché, se débarrasser de cet argent qui lui brûle les doigts, vous voyez. Mais il ne peut pas garder cet argent, c'est pas possible, cela, vous voyez, c'est... Voilà, donc il, d'une certaine façon, pour lui, c'est la façon de se libérer de son péché, ou du prix de son péché, mais complètement bouleversé, complètement désespéré, il perd complètement, je dirais un petit peu, même l'usage de la raison, il ne prend pas même le temps de réfléchir, de se rappeler un petit peu ce que notre Seigneur avait fait, ce qu'il avait dit, ce qu'il était, etc. Donc il perd toute confiance, oui, tout espoir même d'être pardonné, et que fait-il? Eh bien, il va se pendre. Il va se pendre, oui. Et voyez un petit peu la course qu'a fait Judas, hein. Donc parti de chez Caïphe, monté jusqu'au temple, et ensuite il va se pendre, bon, sans doute, oui, dans ce champ qui s'appellera donc Acheldama, ou Acheldama, qui se trouve au sud de la ville, dans la vallée de la Géhenne, oui. Donc il court d'abord de chez Caïphe jusqu'au temple, ensuite il retraverse la ville, et il va là, dans vers ce ravin de la Géhenne où il va se pendre, voilà. Et là, bien... Les actes des apôtres nous diront même, oui, que Judas étant tombé en avant, se rompit par les milieux et ses entrailles se répandirent. Bon. Sans doute a-t-il fait une chute, peut-être, oui, une fois qu'il s'était pendu, peut-être une branche qui a cassé ou je ne sais quoi, et puis pouf, voilà, ce pauvre Judas vraiment qui a une mort tout à fait triste, hein, tout à fait épouvantable, oui. Et le grand péché de Judas, oui, finalement, c'est pas... Bon, bien sûr, c'est la trahison, c'est vrai, c'est un péché, la trahison. Mais surtout, c'est le désespoir, quoi. Et au lieu de courir comme un fou, comme ça, dans tous les sens, etc., il serait venu essayer de voir notre Seigneur, lui demander pardon, mais c'était fini, c'est bien évident, comme le pauvre Saint-Pierre, voilà, ça y est. Bon. Mais non, il n'a pas eu assez de confiance dans l'amour de notre Seigneur, oui. Et après, eh bien, les grands prêtres vont ramasser cet argent... vont ramasser cet argent et justement vont l'utiliser pour acheter ce champ où Saint-Pierre, où Judas s'était pendu. Et sans doute, semble-t-il, la tradition nous rapporte eh bien, qu'il ce champ sera utilisé après eh bien, pour faire un cimetière pour les pèlerins qui viennent à Jérusalem, hein, les pèlerins, lors des grandes fêtes juives. Ouais. Et car cet argent, bien sûr, il n'est pas question de le mettre dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang, disent-ils. Ouais. Ils en ont bien profité de la trahison de Judas, mais après, attention, il ne faut pas salir le temple avec ça. Ouais. Bon, on est propre, mais on est pur. Bon, et donc voici notre Seigneur qui, pendant ce temps-là, lui est emmené chez Pilate. Alors Pilate, où se trouvait le tribunal de Pilate, bon, c'est un peu, on ne sait pas très bien, très longtemps, on a placé le tribunal de Pilate, la demeure de Pilate, oui, dans la caserne Antonia, oui, qui est ici au nord du temple, oui. Mais d'après les découvertes assez récentes, oui, il semblerait qu'en fait ce ne soit pas dans ce coin-là, mais il semblerait que Pilate, plutôt, ait fait sa résidence dans l'ancien palais d'Hérode. Oui, donc pas très loin, donc finalement, du palais de Caïphe. Oui, donc à l'ouest de la ville, il semblerait que ce soit là qu'il se soit installé, bon, sa demeure, et puis qu'il ait installé également son tribunal. Ce qui expliquera tout à l'heure, eh bien, qu'il pourra envoyer notre Seigneur à Hérode, et que notre Seigneur reviendra très rapidement, parce que pratiquement, Hérode étant de passage à Jérusalem pour les fêtes, bon, est venu loger dans son palais, oui, et donc ils sont, Pilate et Hérode sont pratiquement voisins, sont pratiquement dans le même palais, donc oui, le déplacement pourra se faire très très rapidement, oui, tout, parce que tout se joue très vite, hein. Vous voyez un petit peu la rapidité avec laquelle tout se joue là maintenant, donc il est quoi, quelle heure est-il, bon, 8h, 9h du matin peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça, et à midi tout sera fini, hein. Donc il peut peut-être valer 8 heures du matin et tout sera fini vers midi. Bon, qu'est-ce qu'il s'agit maintenant d'obtenir, donc? Eh bien, c'est l'approbation du procureur romain. Voilà, il faut que l'autorité politique, si vous voulez, avalise cette condamnation et accepte la mise à mort, car nous ne pouvons pas le mettre à mort. Si nous étions libres, si le peuple juif était libre, bien sûr, il pourrait à ce moment-là de lui-même prononcer et exécuter la sentence, mais étant occupé par les Romains, ils ne peuvent pas le faire. Donc il faut que Pilate, eh bien, accepte. Il faut amener Pilate à accepter la conclusion. Alors ça va pas être facile, parce que Pilate, quand même, il n'est pas idiot. Il n'est pas très courageux, peut-être, mais il n'est pas idiot, quand même. Et puis c'est un Romain. Attention, les Romains, le droit, le jus, la justice, attention, ça on connaît, ça. La loi, c'est un des points forts des Romains. Donc Pilate a une répugnance pour tout ce qui n'est pas conforme au droit, à la loi. Alors il va falloir justement l'amener à prononcer cette sentence que peut-être il n'a pas envie de prononcer. Ouais. Alors toute la difficulté là pour nos Juifs, c'est que s'il présente notre Seigneur à Pilate pour un motif religieux, Pilate veut leur dire, écoutez, mais laissez-moi tranquille avec ça, moi je ne suis pas là pour ça. Moi je m'occupe de l'ordre public, vos histoires religieuses, débrouillez-vous entre vous. Hein. Bon, ce n'est pas mon problème. Ouais. Et donc il faut le présenter pour un motif politique. Vous voyez, c'est pourquoi, eh bien, précisément, on va le présenter comme rebelle, comme excitateur, comme séditieux, etc. Et donc là, vous voyez, tout le Sanhédrin, alors là, toute la troupe se déplace. Tout ce monde-là traverse Jérusalem. Ouais. Donc, pardon, il est un peu plus tôt encore. Ouais. Il était 5 heures, ça a été. Donc, il est vers 6 heures du matin, à peu près. Donc, ouais, le Jérusalem n'est pas encore tout à fait réveillé. Ouais. Tout le monde dort, ouais, ce qui permet justement de faire tout cela très, très discrètement, sans trop ameuter la populace. Ouais. Personne n'est encore trop au courant de ce qui se passe. Ouais. Et on amène donc notre Seigneur, tout le Sanhédrin se déplace et amène notre Seigneur chez Pilate. Voilà, toute cette foule qui arrive donc devant le palais de Pilate et qui s'arrête à l'extérieur, car attention, c'est la loi, il faut rester pur, sinon on rentre dans le prétoire, etc. Vous voyez, on va se souiller, donc les purifications légales, tout ça, attention, on peut condamner l'innocent, ça c'est pas un problème, mais ne pas rentrer dans la demeure d'un gentil, d'un païen, ça certainement pas. Voyez. Alors Pilate, eh bien, vient au-devant d'eux. Et les interroge un petit peu, que se passe-t-il, quoi, de quoi s'agit-il, sorte d'interrogatoire préliminaire, bon, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Et la réponse tout à fait, c'est bien, ils sont doués, ils sont intelligents, mais enfin quand même, Pilate, fais-nous confiance, si ce n'était pas un malfaiteur, jamais nous ne te l'aurions livré. Enfin quand même, tu nous connais, on est des gens sérieux, quoi, si on t'amène, c'est que c'est un bandit, quoi. Ils sont malins, Ah, bon. Et Pilate, quand même, qui commence un petit peu à connaître ces Juifs et toute leur chicaya ou leur chinoiserie, leur chicanerie, sont toujours en train de se chicaner pour une queue de cerise ou je ne sais quoi. Il dit, bon, ça y a encore une histoire misère, qu'est-ce qui va encore tomber là-dessus, Alors, il essaie de leur dire, bon, écoutez, ça c'est vos affaires, débrouillez-vous, laissez-moi tranquille, Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Allez, Et ça va pas, ça. Non, c'est pas ce qu'on veut. Non, attention, mais c'est qu'on n'a pas le droit. Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Oula, attention. Vous voyez, tac. Là, il faut manifester à Pilate, que l'affaire est importante. Ce n'est pas une petite chicanerie banale, etc. C'est une affaire importante. Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Oula. Alors là, Pilate dit, attention, là. Puisqu'on parle de mort, l'affaire est sans doute plus sérieuse que je ne le croyais. Ouais. Donc, il s'agit à ce moment-là, Pilate va donc le faire, d'instruire donc le procès de façon un peu plus attentive quand même. Ouais. Donc, il faut des preuves, il faut des accusateurs, etc. Ouais, pour que la condamnation puisse être portée. Et donc, c'est la grande accusation, c'est l'accusation justement qui, strictement politique, qui va être porté par les Juifs qui sont ici rassemblés. Oui. Nous avons trouvé cet homme qui trouble notre nation et défend de payer les tributs à César, se disant lui-même le Christ roi. Voilà, vous voyez. Donc pas un mot sur le blasphème, pas un mot sur la divinité, pas un mot, sur le motif religieux, non, uniquement motif politique. Il trouble notre nation, il défend de payer les impôts, et il se proclame, il se déclare le Christ roi. Donc, il se déclare roi. Dis donc. Alors, vous voyez, un petit peu, il veut usurper le pouvoir, etc. Tout un tas de choses qui sont donc... Ah oui, dans cette accusation, bon, vous voyez un petit peu l'habileté, justement, de l'accusation. C'est pas totalement mensonger, mais c'est totalement perverti quand même. Hein. C'est une fausse interprétation, fausse présentation de tout ce que notre Seigneur avait enseigné jusqu'ici. Pilate, bon, devant cette accusation quand même assez sérieuse, bon, Pilate n'est pas tout à fait naïf, n'est pas tout à fait stupide, mais, et donc il faut qu'il instruise un peu ce procès. Alors que va-t-il faire? Eh bien, il va interroger notre Seigneur. Voilà. Hein, notre Seigneur est donc à l'intérieur. Vous voyez un petit peu la scène. Vous avez d'un côté les Juifs qui sont à l'extérieur du palais de Pilate. À l'intérieur, notre Seigneur. Et puis Pilate qui va faire le va-et-vient, comme ça, hein, de l'un à l'autre, pour essayer de dépatouiller un petit peu l'affaire. Donc Pilate rentre dans le prétoire et va interroger notre Seigneur, et que lui demande-t-il tout simplement? Es-tu le roi des Juifs? C'est vrai que tu es le roi des Juifs. Oui, il se fait donc, avait dit les Juifs, là, il se proclame, il se fait lui-même le Christ roi. Alors, vous voyez, cette royauté, de quoi s'agit-il? Es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Et la réponse de notre Seigneur est très, très belle, bien sûr, c'est normal, vous voyez. Que lui répond notre Seigneur? Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Ouais. Et Pilate comprend bien ce que Jésus-Christ lui signifie un peu là dans cette réponse. C'est-à-dire, c'est en gros, quel est le sens de ta question? De quoi parles-tu? D'une royauté temporelle ou d'une royauté spirituelle? Ouais. Si tu le dis de toi-même, tu parles sans doute d'une royauté temporelle. Mais si c'est d'autres qui te l'ont dit, si c'est les Juifs, alors là, il s'agit d'une autre royauté, royauté spirituelle. Oui. Très, très belle réponse. Oui. Je ne sais pas si vous réalisez toujours un petit peu tout ce qu'il y a là derrière, mais c'est important pour bien comprendre ensuite. Oui, il y a un équivoque dans cette question. Je suis le roi. Bon, mais de quelle royauté parle-t-on? Royauté temporelle ou royauté spirituelle? Oui. Alors Pilate, mais est-ce que je suis juif, moi? Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Moi, je ne suis pas juif. Moi, alors, qu'est-ce que j'y connais à vos histoires? Moi, ça ne m'intéresse pas, tout ça. Voyez. Moi, à la limite, la seule chose qui m'intéresse, c'est la royauté temporelle. Moi, je ne suis pas juif, moi. Voyez. Et réponse de notre Seigneur, qui devrait, justement, et qui va, je pense, rassurer un petit peu Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà. Vous voyez, c'est tout à fait... Il répond tout à fait, à la limite, à la question de Pilate, oui. Je suis roi, oui, mais mon royaume n'est pas de ce monde, donc ne t'inquiète pas. C'est pas à toi que j'en veux. Ouais. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs. Et maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ouais. Donc, notre Seigneur distingue bien le sens de sa royauté. Ouais. Tu es donc roi. Tu l'as dit, je suis roi. Et notre Seigneur continue justement, bien, pour éclairer un petit peu Pilate, bien lui faire comprendre quelle est cette royauté qu'il proclame. Hein, je suis né et je suis venu dans ce monde à cette fin de rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité écoute ma voix. Voilà. C'est tout ce que je suis venu faire. Je ne suis pas venu conquérir un royaume, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Voilà tout mon royaume. Mon royaume, c'est le royaume de la vérité. Ouais. Et Pilate comprend bien que finalement, il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est vraiment pas un problème. Ouais. Alors, il répond par une sorte de boutade. Qu'est-ce que la vérité? Bon, ce n'est pas une question qu'il pose, hein, parce qu'il n'attend même pas la réponse. Alors, hein. À ce moment-là, Pilate se lève pour sortir et aller parlementer avec les Juifs, pour essayer un petit peu de leur dire, bon, écoutez, quand même, ça ne va pas, cette affaire-là. Ouais. Et Pilate, très certainement, par ce très court dialogue, a compris l'innocence, hein, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il entend quand même, ouais, il entend, hein, bon, pendant ce temps-là, il y a toujours les Juifs qui sont à l'extérieur, ouais, bon, qui trouvent que tout ça dure un peu trop longtemps, et qui s'agitent, qui tempêtent, et les princes qui disent à la populace, « Allez-y, chahuté, je vois quoi, enfin, tout, comme on fait aujourd'hui dans les manifs, hein, vous savez, ça, rien n'a changé, hein, il y a quelques meneurs, et puis les clampins derrière qui agitent des banderoles, hein, bon, ça, c'est... Donc une sorte de rumeur un petit peu, et sans doute très très hostile, et avant donc de retourner vers la foule, bon, Pilate qui s'est levé pour aller vers eux, il dit à nos amis, enfin, entends un petit peu tout ce qui crie contre toi, tu ne réponds rien, ne vois-tu pas de combien de choses ils t'accusent? En gros, qu'est-ce que je veux leur dire, moi? Écoute un peu toutes ces accusations, moi je comprends bien que tu es innocent, mais qu'est-ce que je veux leur dire, moi? Et notre Seigneur ne répond pas. Pauvre Pilate, il n'est pas aidé. C'est vrai, on sent ce pauvre Pilate qui essaie lui aussi, il voudrait délivrer Jésus, c'est clair ça. Mais il ne sait pas comment faire, il est pris, il est coincé, etc. Et chaque fois qu'il demande de l'aide à notre Seigneur se tait. Il n'y a pas moyen, c'est vraiment, c'est pas facile pour lui. Bon, voilà. Et donc Pilate sort, va vers la populace, il dit, bon, calme un peu tout ce monde-là, et il leur dit, ben voilà, je ne trouve en lui aucune faute. Oh, ça va pas, ça ne marche pas comme on voulait. Alors ça reprend un petit peu la colère du peuple, qui reprend, il soulève le peuple, il répète leur accusation, il soulève le peuple, répandant sa doctrine dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Ah, sauvé, enfin, presque. La Galilée. Oh, formidable. Il est galiléen, c'est vrai. Oh, mais ça tombe bien. Ah, Hérode est là. Hérode, tétrarque de Galilée. Ouh, je vais l'envoyer chez Hérode. Voilà, c'est terminé. Je me débarrasse du problème un petit peu. Oui. Et effectivement, bon, Hérode Antipas, c'était là. Donc, pas très loin, dans le même palais, sans doute. Hein, qui était là. Et Pilate, donc, va envoyer notre Seigneur eh bien, devant Hérode. Hérode Antipas, rappelez-vous, c'est lui qui avait assassiné Saint Jean-Baptiste, hein. C'est lui qui avait fait mettre en prison et ensuite fait mettre à mort Saint Jean-Baptiste. Bon, donc il avait entendu parler un petit peu de tout ça, de notre Seigneur, de ses disciples, etc. Et sachant que Jésus-Christ était là, eh bien voilà, tout heureux de le voir, hein, car depuis longtemps, il en avait le désir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir opérer quelques prodiges. Et voilà donc notre Seigneur qui est amené devant Hérode. Et Hérode qui le questionne, qui lui pose des questions, qui essaie un petit peu de lui faire faire quelques miracles, on ne sait pas quoi, quelque chose pour s'amuser un petit peu. Puis notre Seigneur qui ne bouge pas, qui ne dit rien, pas une seule réponse. Quand on est devant un clown, qu'est-ce que vous lancez? Et Hérode était un clown, un méchant clown, un mauvais clown, ça c'est clair, mais un guignol. Ouais. Et donc notre Seigneur ne répond pas. Alors, c'est-à-dire qu'Hérode n'était pas très très satisfait, c'est pas tout à fait ce qu'il attendait, ce qu'il espérait. Alors, ma foi, en désespoir de cause, eh bien, il se moque de notre Seigneur. Il le fait revêtir d'une robe blanche. Hein, c'était le vêtement des fous, hein, pour se moquer de lui. Et dans cet accoutrement, eh bien, il le renvoie tout simplement à Pilate. Oui, bon, voilà. Et donc, Pilate, eh bien, voit notre Seigneur revenir vers lui. Bon. Et ça va être, disons, la deuxième phase un peu de ce procès civil. Bon, la première a échoué. Pilate n'est pas arrivé à innocenter notre Seigneur, Hérode non plus. Bon, et donc Pilate, eh bien, se retrouve avec le cas devant lui. Hein. Pilate est bien ennuyé. Vraiment, les choses sont plus embrouillées, plus compliquées, plus sérieuses, hein, qu'il le croyait. Il veut vraiment, il cherche quelque chose, il cherche un échappatoire, hein. Alors il va essayer, eh bien, c'est affreux tout cela, mais de donner un petit peu, d'aider, donner quelque chose à ses accusateurs, hein, pour les calmer, pour les apaiser. Voyez. Et il va leur tenir un raisonnement qui est complètement absurde. Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé devant vous. Je n'ai trouvé en lui aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et vous le voyez, rien qui mérite la mort n'a été commis par lui. Donc c'est un acquittement. Voilà. Mais alors, c'est là qu'est l'illogisme, et c'est catastrophique, c'est invraisemblable. Donc, après l'avoir soumis à un châtiment, je le renverrai. Mais non, il y aura un juge qui ferait ça aujourd'hui, moi je crois qu'il aurait des gros problèmes. Hein. Je n'ai rien trouvé chez lui, il est innocent, donc je vais le châtier. Et je le renverrai. Mais pauvre Pilate, il ne sait pas comment s'en sortir, alors il dit un petit, à la limite un peu n'importe quoi. Il est innocent, mais je vais le punir pour vous faire plaisir, alors qu'il est innocent. Et après, ben, je le renverrai. Voilà. Et alors, quel va être ce châtiment? Ce sera la flagellation, nous verrons après. Mais Pilate va même essayer d'ajouter encore autre chose. Vous voyez, on sent bien ce pauvre Pilate. Bon, je ne veux pas l'innocenter complètement, attention. Mais enfin, bon, les Juifs ne sont pas faciles non plus. Hein. C'est des roublards. Hein. Bon, enfin, voilà. Il ne faut peut-être pas enregistrer tout ça, parce que, misère, je vais avoir des problèmes après. Donc, une sorte de concession. Il a fait, je vais le châtier. Voilà, comme ça, vous serez content. Mais il va encore essayer de leur donner autre chose, vous voyez. Bon, c'est la Pâque, et à l'occasion de la Pâque, cette tradition, cette coutume, libérer un prisonnier, vous voyez. Il y avait donc en prison, en ce moment-là, un bandit, un vrai bandit, Barabbas, qui était vraiment un voleur, un bandit, un type insupportable. Et le peuple ne l'aimait pas du tout, Barabbas. Et que fait Pilate? Eh bien, il va leur proposer la grâce de Jésus. Oui, bon, je vais le châtier, mais je le gracierai. Voilà. Hein, qui préférez-vous, justement, que je vous relâche? Est-ce que vous voulez bien que je vous délivre Jésus? Ou est-ce que vous préférez que je vous délivre Barabbas? Et sans doute, au fond de lui-même, il dit, jamais ils voudront que je libère Barabbas, qui est un bandit de grand chemin. Ils ne peuvent plus le supporter? Eh bien non. Eh bien non. Plutôt que de voir Jésus-Christ gracié, ils vont préférer la libération de Barabbas. Oui, c'est... Donc voilà la question qui est posée. Hein. Donc il leur propose de le faire châtier, il leur propose la libération, soit de Jésus, soit de Barabbas. Oui. Bon, voilà, alors maintenant, eh bien, voilà. Alors pendant les Juifs, semble-t-il, sont un petit peu... Attention, là, il faut réfléchir quand même, il ne faut pas faire de bêtises. Donc, petite accalmie un petit peu. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un événement très, très, très curieux qui se produit. C'est Saint Matthieu qui est le seul à le rapporter. Le seul à le rapporter, bien, c'est la femme de Pilate, et qui vient, mais j'ai un petit peu lui compliquer encore un petit peu les choses. Je dirais pas que c'est toujours comme ça quand les femmes interviennent, c'est pas vrai, moi. Ça n'est pas vrai, non, non. Mais donc voilà la femme de Pilate qui vient trouver Pilate et qui lui dit attention, j'ai eu un songe cette nuit, j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Oula, pauvre Pilate. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est pris un petit peu entre sa conscience, même, je dirais, bon, entre sa femme en plus, qui vient lui confirmer qu'effectivement, cet homme est innocent, cet homme est juste, surtout qu'il n'y a rien entre toi et lui. Oulala, la misère. Et les Romains croyaient assez très très fort, hein, dans leur mythologie, dans leur religion, ces présages, etc. Pour eux, c'était tout un monde, ils y croyaient dur comme fer, donc pour lui, c'était sûr. Si jamais il condamne notre Seigneur, il va lui arriver des catastrophes. Hein, c'est clair pour lui. Alors, que faire? Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, il ressort vers les Juifs pour bien avoir la réponse à la question qu'il a posée. Et à ce moment-là, bien sûr, les princes des prêtres et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Alors, lequel des deux voulez-vous que je vous délivre? Et tous répondirent d'une seule voix, Barabbas. Invraisemblable. Alors que, voilà, tout clame l'innocent de notre Seigneur, mais non, voilà, c'est lui qui doit mourir. Et que donc, que ferais-je de Jésus, appelé le Christ? Qu'est-ce que je vais en faire, lui? Bon, vous voulez que je vous délivre Barabbas? Bon, mais lui, alors, qu'est-ce que je vais en faire? Puisqu'il est innocent, qu'il soit crucifié. Crucifie-le. C'est les Juifs, hein, attention, qui demandent ça, hein. Attention. Alors, la tragique méprise et tous ces machins-là, doucement, hein, qu'ils soient crucifiés. C'est eux qui l'ont demandé, personne d'autre. Hein. Mais qu'a-t-il fait de mal? Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Et donc, je vais le châtier et je le renverrai. Toujours même illogisme, enfin, voilà. Essayer de leur donner une petite satisfaction, qu'ils soient crucifiés. Il n'y a rien à faire. Qu'ils soient crucifiés. C'est ce que l'on veut et rien d'autre. Alors, eh bien, que fait à ce moment-là le pauvre Pilate? Eh bien, devant cette foule hurlante, vociférante, vous voyez, qui n'arrive pas à calmer, qui n'arrive pas à satisfaire, eh bien, il se lave les mains, hein, qui est un signe, un geste, hein, tout à fait classique, tout à fait connu. Donc, il fait amener un bassin d'eau. Et là, il se lave les mains en présence de la foule. Hein, cette foule qui hurle, qui demande la mort de notre Seigneur, eh bien, voilà, dire, ben, je m'en lave les mains. Vous savez très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, bien, moi... Ce n'est pas mon affaire. Hein. Je suis innocent de ce sang. Vous en répondrez. Voilà ce que Pilate répond aux Juifs, « Je suis innocent du sang de ce juste, c'est à vous de voir. » Et la foule des Juifs, de faire cette proclamation épouvantable, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Et quand on pense un peu à la signification de cette exclamation des Juifs, ils en appellent au jugement de Dieu. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Ouais. Bon, il y a un jugement humain qui vient d'être rendu. Bien maintenant, ils en appellent à un autre jugement qui est celui de Dieu sur eux. Voilà. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà, il y a donc Pilate, et bien Pilate cède aux Juifs, et donc va faire flageller notre Seigneur. Voilà, ce châtiment qu'il leur avait promis. Il gracie Barabbas, et il fait flageller notre Seigneur. C'est une chose épouvantable, ça, je n'ose pas vous décrire ce qu'a pu être ce supplice. C'est quelque chose d'immonde, immonde. On ne peut pas imaginer, je dirais, dans quel état était un être humain après ce supplice de la flagellation. C'est quelque chose d'atroce. Le patient était déshabillé, lié par les poignets à un pieu, une colonne. Et ceux qui vont à Rome peuvent voir à l'église Sainte Praxède la colonne de la flagellation qui a été ramenée là, une colonne là, sur laquelle notre Seigneur donc a connu ce supplice de la flagellation. Et donc notre Seigneur est courbé là, sur cette colonne. Et c'est la flagellation. Alors la flagellation, c'est quand on sait que le fouet était composé de plusieurs lanières de cuir avec des boules de métal, des ossements, et même des pointes aiguës. Chez les Juifs, le nombre des coups était illimité à 39, mais pas chez les Romains. Alors voyez quelques brutes, là, soldats en campagne, etc., qui s'acharne sur cet homme qui se prétend le roi des Juifs, etc. Bon, vous voyez un petit peu dans quel état pouvait être notre Seigneur. Après ce supplice, quelque chose d'atroce, c'est une chose qu'on ne peut pas décrire parce que c'est affreux. Et ensuite, notre Seigneur étant flagellé, il va être abandonné un petit peu à cette valetaille, qui c'était un petit peu la coutume. Malheureusement, donc, il est condamné à mort, pratiquement. C'est décidé. Pilate ne peut rien faire pour empêcher cela. Il pourrait le faire, mais il n'en a pas le courage, disons. Et donc, notre Seigneur est abandonné un petit peu au jeu, à la dérision de ces valets. Il est condamné à mort. Il vient d'être flagellé dans un état effroyable. Vous voyez. Et maintenant, on peut s'amuser de lui. Or, les soldats lui mettre sur les épaules un manteau rouge, une chlamyde rouge. C'était le vêtement que portaient autrefois les triomphateurs après une victoire. Et donc pour se moquer de lui, puisque tu es le roi des Juifs, voilà, on te met un beau manteau rouge. Ensuite, que font-ils? Puisqu'il est le roi, on lui tresse une couronne d'épines. Et enfin, on lui met un sceptre dans la main, un roseau. Et puis voilà, c'était pas des légionnaires, sans doute. Qu'est-ce que c'était? C'est ces hommes qui étaient là, ces sortes d'hommes ramassés un petit peu dans toutes les tribus de la région et qui, bien souvent, étaient plutôt hostiles aux Juifs et qui vont donc s'en donner à cœur joie contre cet homme qui se prétend le roi des Juifs. Vous voyez, ces hommes qui haïssent les Juifs, ils ont là à leur portée, je dirais, à leur merci, quelqu'un qui s'est dit le roi des Juifs et ils se moquent de lui. Donc ce manteau rouge, la couronne d'épines, le roseau, et puis on vient vers lui. On se moque de lui, on s'agenouille devant lui, on lui fait des grandes révérences. Salut, roi des Juifs, et puis quand on s'en relève, qu'est-ce qu'on fait? On prend son sceptre, on lui tape sur la tête. Voilà, on lui crache au visage, etc. Et cela va durer combien de temps? Quelques temps, en tout cas, voilà. Et il y a à peu près, donc tout cela, sans doute, le procès chez Pilate a duré sans doute à peu près 4 heures. Ces va-et-vient, 4 heures. Donc il y a à peu près vers 10, 11 heures du matin. Donc cela étant fait, notre Seigneur étant flagellé, couronné, etc., Pilate se dit que peut-être, ça va suffire aux Juifs. Il va essayer, on sent bien, jusqu'au bout, il va essayer de le sortir de là. Et donc il amène notre Seigneur au dehors. C'est sans doute la première fois que Jésus-Christ paraît là publiquement devant tout le peuple d'Israël, Pendant les procès de la nuit, il n'y avait que le Sanhédrin. Là, jusqu'ici, il est resté à l'intérieur du prétoire. Et voici que donc, à la fin de la matinée du Vendredi Saint, notre Seigneur est présenté au peuple de Jérusalem. Oui. Et dans quel état ? Voici que je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Voilà. Et puis notre Seigneur apparaît donc, vous voyez un peu dans quel état, tenant à peine sur ses jambes, sans doute, après tous ses supplices, oui. Portant la couronne d'épines et le manteau d'écarlate, et Pilate, eh bien, le désigne. Voici l'homme. Voici l'homme. Et lorsque les princes des prêtres et les satellites le virent, vous pensez que ça les a pitoyés, ces pauvres juifs qui étaient là, vous croyez qu'ils ont eu quelque pitié pour cet homme-là ? Non. Crucifie-le. Crucifie-le. C'est épouvantable. Il n'y a même pas de sens humain, je dirais. C'est pas moi. Quand on voit un homme dans cet état-là, moi, je ne sais pas. Même si c'est le pire des bandits, notre pire ennemi, bon, je sais pas, on a un petit peu de retenue quand même. Je sais pas, j'imagine, moi, enfin, non, crucifie-le, crucifie-le. Et Pilate leur répond, prenez-le vous-même, qui à la limite, eh bien, allez-y, moi, je ne veux plus m'en occuper, tout ça, prenez-le vous-même, allez-y. En gros, ben, allez-y, ben, vous-même, chargez-vous de ce péché, quoi. Il voudrait se sortir de là, hein. Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour moi, je ne trouve aucun crime en lui. Et c'est là le chantage des Juifs, d'où le chantage hein, qui va se répéter là deux fois. Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Quel est le chantage là qu'exercent les Juifs ? Nous avons une loi, ils font appel donc à leur religion. Et donc un petit peu, bon, ouais, d'une certaine façon, eh bien ils invoquent en leur faveur le respect de la religion, la liberté religieuse. Toi Pilate, tu dois protéger notre religion. Nous avons une loi. Nous avons une religion, tu dois la protéger. Si tu ne la protèges pas, cette loi, si tu donc empêches notre loi de s'accomplir, ben en fait, tu favorises l'impiété, tu favorises l'idolâtrie, tu favorises les fausses religions, etc. Ça va pas, ça. Puis là, tu as très bien compris, ils sont malins. Hein. Nous avons une loi. Cette loi, ben, tu dois la protéger. Cette loi doit s'accomplir. Selon notre loi, il doit mourir puisqu'il s'est fait fils de Dieu. Ayant entendu ces paroles, Pilate fut encore plus effrayé. Et rentrant dans le prétoire, il dit à Jésus, « D'où es-tu ?» Il ne sait plus comment faire. Il va vers notre Seigneur, « Mais enfin, aide-moi un petit peu, dis-moi quelque chose qui pourrait m'aider à te sortir de là. D'où es-tu » En soi, c'est une question qui n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être espère-t-il que dans la réponse de notre Seigneur, il pourra trouver quelque chose qui l'aidera un petit peu, mais notre Seigneur ne répond rien. « Tu ne me parles pas ? Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te crucifier ?» Dis quelque chose, moi. Aide-moi. Moi. Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Oui, il n'y a rien à faire. Notre Seigneur ne veut pas, à la limite, il doit marcher vers la mort. Notre Seigneur veut mourir. Oui. Mais, d'une certaine façon, dans cette réponse, voyez, je ne dis pas qu'il innocente Pilate. Non, parce que quand même, Pilate sera coupable, mais il ne sera pas le plus coupable. Et Pilate le sent bien. Et celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Donc, vous voyez, Jésus-Christ, avec bonté, discrétion, le rassure d'une certaine façon. Ce n'est pas toi le plus coupable. Mais il est clair que là, le pauvre Pilate, eh bien, se retrouve tout seul. Tout seul. Il résiste, il essaie de résister aux Juifs, mais voilà, il se trouve tout seul. Et dès ce moment, Pilate cherchait à le délivrer. Il sent bien que ça ne va pas, il ne peut pas. Il ne peut pas, il peut pas le condamner à mort, cet homme-là. Il faut que je le délivre, mais comment faire ? Comment faire ? Et les Juifs sentent bien. Ils sentent bien que Pilate, c'est pas gagné encore. Hein. Ils n'ont pas emporté le morceau. Hein. Bon, c'est pas gagné encore, c'est clair. À ce moment-là, c'est pas fait encore. Hein. Et alors, à ce moment-là, que font-ils ? Deuxième chantage. Si tu le délivres, tu n'es point ami de César. Aïe, aïe. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et voilà, c'est perdu. Pilate a peur. Vous vous rendez compte ? Là, c'est l'autre chantage. Si tu le délivres, eh bien, tu n'es pas ami de César. Alors attention, attention, César le saura. César l'apprendra. Et attention, Pilate, tu vas avoir des ennuis. Voilà. Et le pauvre Pilate, eh bien, pas très courageux. Honnête sans doute, hein, droit. Il a bien vu que ça n'allait pas à tout cela, mais manque de courage, hein. Lâche, lâche. C'était environ la sixième heure, nous dit l'évangéliste, hein, Jean, Saint Jean. Donc, près de midi. Nous sommes vers l'heure de midi à peu près. Et c'est là le grand, malheureusement, c'est le grand, la conclusion de tous ces procès. C'était environ la sixième heure, hein, Pilate sort, fait installer son tribunal sur ce qu'on appelle le lithostrotos. Alors c'est cela justement, vous voyez, ce lithostrotos qui a été localisé, semble-t-il, et qui permettrait de placer le palais de Pilate dans le palais d'Hérode. Hein. Donc environ la sixième heure, hein, donc Pilate fait disposer sur ce lithostrotos c'est simplement un dallage, ouais, une grande place couverte de dalles, vous voyez. Et donc là, il fait installer son tribunal avec le siège curule, ce qu'on appelle le siège curule, où il vient s'asseoir. Ouais. Il fait sortir Jésus, il montre notre Seigneur, et il leur dit, voici votre roi. Oui, toujours il revient, il essaie un petit peu de qu'il meure, crucifie-le. Crucifierai-je votre roi? Nous n'avons d'autre roi que César. Donc lui, il s'est proclamé le roi. Jésus-Christ a dit qu'il était le roi, mais eux refusent sa royauté. Donc il n'est pas roi. Pour Pilate, donc il n'est pas roi. Tout ça, c'est, il ne peut plus rien faire pour lui. Les Juifs n'ont pas d'autre roi que César. Et donc, eh bien, il le leur livra pour être crucifié. C'est terrible tout ça, vous savez. Quand on... Bon, tout cela est rapide, hein, bien sûr, on ne peut pas trop, mais il faudrait détailler tout cela. Il y a tellement de choses... Hein. Moi, je ne peux que vous inviter à relire un petit peu tous ces épisodes, voir un petit peu tout le drame hein, qui se joue et qui se dénoue sur trois fois rien. La mort de notre Seigneur, vraiment, on dit, c'est rien. Il n'y a aucun motif à condamnation. Pilate, qui a donc entre les mains ce pouvoir de vie et de mort sur notre Seigneur, sait très bien qu'il est innocent, il le sait, mais il n'ose pas. Il n'ose pas l'innocenter. Par crainte des Juifs, parce qu'il a peur pour sa situation, il a peur de se mettre mal avec les populations, je ne sais quoi, etc. Eh bien, il n'ose pas affirmer le droit, affirmer la justice. Ouais. Et donc, il livre notre Seigneur aux Juifs pour qu'ils le crucifient. Voilà. Et donc, les Juifs sont satisfaits. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce que c'est un petit peu long, mais enfin... Voilà, nous verrons mais la prochaine fois la suite, qui n'est pas non plus très, très... Bon, enfin, vous verrez ça. Pas de questions. C'est rapide, hein, je suis désolé, il faudrait pouvoir faire ça en... Il faudrait 3 heures, mais il faudrait le temps des procès pour vous l'expliquer, pratiquement. Alors, ça fait un petit peu long, quand même. Enfin, j'espère que tout cela vous donne au moins quelques aliments pour... méditer peut-être, puisque nous sommes dans le temps du carême, nous serons bientôt dans le temps de la passion, etc. Mais peut-être pour méditer un petit peu et vivre un peu plus du fond du cœur, de l'âme, eh bien, ces grands moments, hein, de notre salut.